Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Blaise Shindani Kambala.
Situation sécuritaire en Ituri, les forces armées de la RDC, la police nationale congolaise et les casques bleus de la MONUSCO intensifient les patrouilles à Komanda pour écarter toute menace des rebelles ADF contre la population. Cette action intervient après l'attaque de ces groupes armés dans cette entité ayant fait plus de 40 morts. Un ancien candidat gouverneur de Kinshasa alerte sur l'insalubrité qui étouffe la capitale congolaise avec des conséquences graves si rien n'est fait. Serge Ntinkoum Anza tire la sonnette d'alarme dans une tribune parvenue à la rédaction de Radio Kapi ce matin en proposant une solution axée sur 6 points. Notre invité, c'est Maître Shadrach Moukad, coordonnateur provincial de la société civile du Lualaba. Parlant de l'encadrement des creuseurs artisanaux dans cette province, il a le sentiment que ces exploitants miniers artisanaux sont souvent négligés par les autorités. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mais avant toute cette information, l'examen de l'affaire mettant en cause l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est poursuivi ce mercredi 30 juillet devant la Cour de cassation. Alors qu'il était prévu de poursuivre l'instruction du dossier, les avocats du prévenu ont notifié à la Cour que leur client a déposé 2 requêtes en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. La première est dirigée contre les décisions prises par l'Assemblée nationale autorisant au procureur général près la Cour de cassation de procéder à l'instruction et aux poursuites à charge de Constant Mutamba, et la seconde est dirigée contre la décision qu'avait rendue la Cour de cassation rejetant toutes les exceptions qui avaient été soulevées par le prévenu. Réagissant, le procureur général a demandé à la Cour le rejet de ces incidents et de poursuivre la procédure. Constant Mutamba est poursuivi pour détournement des 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal Vespéral. Comme annoncé au sommaire, en Ituri, les FARDC, la police et les casques bleus de la MONUSCO ont intensifié les patrouilles à Komanda, à 75 km au sud-ouest de Bunia, après l'attaque des ADF qui a fait une quarantaine de morts. L'objectif est d'écarter toute menace de ce groupe armé pour protéger la population. Cependant, le Conseil territorial de la jeunesse déplore la manipulation de certains jeunes par des acteurs politiques pour étouffer les efforts du gouvernement et de son partenaire, la MONUSCO. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Les forces conjointes FARDC armée ougandaise ont renforcé leur présence depuis dimanche à Komanda Centre pour traquer les ADF après l'attaque meurtrière samedi la nuit au quartier Zunguluka. Un autre groupe d'FARDC associé à la police congolaise et au casque bleu de la MONUSCO font des patrouilles des jours comme des nuits dans les différents quartiers de Komanda. Ces opérations visent à rassurer les habitants encore sous les chocs et à prévenir toute autre incursion armée. Le président du conseil territorial de la jeunesse, Jacques Anayeyi, salue cette initiative tout en dénonçant la manipulation politique qui fragilise la cohésion sécuritaire. Certains politiciens profitent de la situation pour attiser les rejets de la MONUSCO, a-t-il déclaré. Mardi, lors d'une patrouille dans les quartiers Bahiti, des tirs ont été essuyés par l'équipe conjointe de sécurité. Des éléments de la milice FPIC seraient à l'origine de l'attaque, un acte vivement condamné par les autorités locales et les stricteurs de la jeunesse.
Nous condamnons avec fermeté cet acte de violence injustifiée qui compromet les efforts de paix et expose toute la population civile à de graves dangers.
En réaction, l'administrateur du territoire d'Irumu a convoqué ce mercredi à Komanda les leaders de la milice FPIC. Objectif, les dissuader de toute action visant à entraver les efforts de paix et les appeler à l'unité face à la menace ADF. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
À ce sujet, la Coordination nationale de la société civile Force Vive de la RDC dénonce et condamne le massacre qu'elle qualifie d'odieux perpétré dans la cité de Komanda, en Ituri, tous les dimanches, causant la mort d'au moins 43 paisibles civils ainsi que des dégâts matériels importants. Dans son communiqué des presses publiées ce mardi à Kinshasa, cette structure citoyenne dit noter que ce drame intervient dans une succession de tant d'autres dans les territoires de Mahagi, Djougou, Irumu et Mambasa, dans cette province de l'Ituri sous état de siège. On écoute Maître Jean Bosco Lalo Pacha, premier vice-président national et porte-parole de la société civile Force Vive de la RDC, dans ses propos recueillis par Grâce Hamzati Masanzi.
Concernant les récents événements de Comanda, les autorités compétentes ne sauraient jusqu'à présent fournir une information claire sur l'identité des acteurs de ces drames, ni sur leur itinéraire après avoir commis leur forfait en présence des FARDC et des troupes de la MONUSCO stationnées dans la zone. Ce flou opérationnel interroge. Si l'on ignore d'où sont venus les assaillants et où ils sont allés, peut-on conclure avec certitude qu'il s'agissait des ADF? Il ne s'agit aucunement ici de disculper ou de protéger quel groupe que ce soit, mais de rappeler l'importance de la rigueur dans l'identification des responsables et la nécessité de preuves tangibles avant toute déclaration. En ces jours, aucun assaillant n'a été arrêté. Face à l'effondrement progressif des institutions de l'État et à l'affaiblissement de la cohésion nationale, il est urgent d'accélérer le processus de paix. En sa qualité de garant de la nation, le chef de l'État ferait mieux d'être le sujet central du processus de paix, très attendu par les Congolais. Afin que toutes ces condamnations contre le massacre des commandants ne soient pas de simples larmes de crocodile, plaidons tous pour ce dialogue inclusif. La paix imposée reste fragile et précaire.
À Kinshasa, parlons de cette clôture de la formation des auditeurs de la 8e session spéciale de la 10e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense, CHESD, ainsi que de la 8e promotion de l'École supérieure d'administration militaire, ESAM, qui a eu lieu ce mardi à Kinshasa. À cette occasion, le vice-premier ministre de la Défense nationale a exhorté les lauréats à traduire les leçons apprises en leadership opérationnel, rigueur administrative et excellence stratégique au service de la République. Les explications de Blaise Ndongala Mayanda.
La ministre d'État en charge des affaires étrangères, les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique et les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire ont chacun à leur tour parrainé ces sessions de formation. Le directeur général du Collège des hautes études de stratégie et de défense a présenté les lauréats de cette année comme les nouveaux stratèges du pays, bien formés et prêts à servir la République. Le commandant de l'École supérieure d'administration militaire a encouragé les récipiendaires à servir la nation avec dévouement et passion afin de porter haut l'étendard de cette institution. Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a salué l'expression vivante d'un engagement commun en faveur d'une armée forte, capable de produire une pensée défensive solide, susceptible d'éclairer des décisions de haut niveau. Guy Kabombo Mwadia Vita.
À travers les exposés, les échanges et les réflexions stratégiques, vous avez démontré que notre système de formation militaire est capable de produire une pensée défensive solide, capable d'éclairer les décisions de très haut niveau.
Ces sessions ont abordé plusieurs thématiques, notamment la réforme et l'administration de l'armée, l'intégrité territoriale, les défis géopolitiques ainsi que l'innovation au sein des forces de défense et de la sécurité congolaise.
Nous le disions en titre, la ville de Kinshasa suffoquée par des déchets et frôle la catastrophe d'ici les prochaines pluies si des mesures ne sont pas prises maintenant. Cette sonnette d'alarme est de Serge Ntinkoum Anza qui fustige l'échec du gouvernement de Kinshasa. Dans sa tribune parvenue ce matin à la radio Capi, l'ancien candidat gouverneur de la capitale estime qu'il est encore possible de rendre Kinshasa plus salubre grâce à une stratégie axée sur 6 points. Michel Kifindangoy.
À en croire Serge Ntinkoum Anza, Kinshasa suffoque sous les déchets. Rue, rivière, caniveau, tout est envahi. L'ancien candidat gouverneur tire la sonnette d'alarme et dénonce un double échec, celui du civisme citoyen et de la gouvernance environnementale, transformant la capitale en dépotoir à ciel ouvert, avec des conséquences graves sur la santé. Mais Kinshasa n'est pas condamné. Inspiré par des villes comme Paris, Dakar ou Abidjan, qui ont réussi leur transformation, Serge Ntinkoum propose un plan ambitieux en 6 axes. Une agence métropolitaine de gestion des déchets, une collecte sélective, le recyclage et une participation citoyenne forte. Le financement serait assuré par une nouvelle fiscalité d'assainissement, équitable et transparente, complétée par des partenariats. Il insiste aussi sur l'urgence de renforcer la législation, notamment sur les déchets plastiques, et d'adopter un édit provincial provincial sur la gestion des déchets.
Pendant ce temps, dans les territoires de Beni au Nord Kivu, au moins 5000 ménages du quartier Congo Yasika, situé dans la cité frontalière de Kassindi Lubiria, à 90 km de la ville de Beni, seront bientôt alimentés en eau potable. Cela mettra fin à plus de 3 années de souffrance pour ces habitants qui avaient difficilement accès à une eau de qualité. Le projet d'adduction d'eau comprenant notamment la construction des 20 bornes et fontaines et des citernes de stockage a été lancé le week-end dernier. Il est porté par un consortium de 4 organisations non gouvernementales actives dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Le comité international de la Croix-Rouge, Tirfund, Mavuno et World Vision. Un soulagement pour la population locale, comme l'explique Paul Zaidi, premier rapporteur de la société civile de Kassindi Lubiria, au téléphone de Marc Marofimbo.
Le quartier Congo Yasika de Kassindi Lubiria n'a jamais bénéficié d'un quelconque projet d'adduction d'eau potable. Certaines bornes fontaines qu'avait creusées la population produisaient de l'eau salée. Du coup, la population effectuait de longues distances pour la recherche de l'eau potable. Les gens se contentaient des eaux de la rivière Lubiria pour les travaux de ménage. Nous saluons le partenariat du gouvernement congolais avec les organisations humanitaires qui œuvrent dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement pour ce projet salutaire pour la vie de la population de Congo Yasika, car plus de 5000 ménages de ce quartier avaient souffert pour avoir de l'eau potable. Nous disons aussi merci pour tous ceux-là qui ont fait des plaidoyers pour la réussite de ces projets. Voilà qu'aujourd'hui, l'eau coule dans les quartiers Congo Yasika au profit des milliers de gens. C'est un projet salutaire de la part de ces organisations humanitaires pour donner une autre assurance de vie aux habitants de ces quartiers.
Selon des sources proches du consortium des ONG, 10 bornes et fontaines sont déjà disponibles et les travaux des vrais être achevé d'ici décembre. Ce journal se poursuit dans la province du Maniema. 10 écoles, 8 centres de santé et nutritionnels vont voir le jour dans ces coins du pays. En tout cas, le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient vient de valider les sites devant abriter ces infrastructures. Ce n'est pas tout. Padrir a aussi approuvé les études techniques pour la construction des 104 km de pistes rurales sur 2 axes dans la province du Maniema. Nous allons comprendre tout cela avec Florence Kizalunga.
Au cours de ces cérémonies de validation de ces initiatives signées par Padrir, son responsable au Maniema a reconnu que toutes ces activités visent à répondre à l'objectif de ces programmes, qui est celui de rechercher le développement intégral de la population en milieu rural. Roland Mugisho en a profité pour lancer des appels d'offres.
Après la validation des infrastructures sociales, des pistes rurales et des forages, l'étape qui va suivre, c'est le lancement des appels d'offres. Et pour les infrastructures sociales, écoles, centres de santé, il s'agit des études techniques appropriées. C'est ici l'occasion de faire un appel solennel à toutes les entreprises agréées ayant les compétences et l'expérience nécessaires pour postuler à ces marchés qui seront rendus publics incessamment par les canaux officiels.
Pour sa part, le gouvernement provincial suggère à Padrir de bien faire les choix des sociétés pouvant exécuter ces travaux. Ingénieur Adrien Malipizi est conseiller en charge du développement rural au ministère provincial de l'agriculture et développement durable.
Pour nous, c'est une grande satisfaction. Nous voudrions que Padrir puisse formuler un critère très rigoureux pouvant sélectionner et recruter des entreprises sérieuses qui peuvent nous aider à réaliser le projet comme indiqué dans le PTBA 2025 de notre programme Padrir.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Plus de 8 millions de dollars seront débloqués d'ici mi-août pour apurer une partie de la dette sociale de la société minière de Bakwanga en faveur des 1047 retraités de la MIBA. C'est dans ce cadre qu'un protocole d'accord entre l'État, la Caisse nationale de sécurité sociale et la société minière a été conclu et signé sous les auspices du ministre des Finances mardi 29 juillet dernier dans le bureau du ministère des Finances à Kinshasa. Jean-Marc Matwaki nous donne les grandes lignes de ce processus qui s'inscrit dans le cadre de la relance de la MIBA.
Conformément à la décision prise lors du Conseil des ministres du 28 août 2024, le processus de la relance, la MIBA entame sa vitesse de croisière avec la signature de ses protocoles. Comme l'explique ici Madame Joëlle Kabenamumba, coordonnatrice de l'unité de gestion du projet d'appui financier de l'État pour la relance, la MIBA, UGP MIBA.
Pour la première fois, depuis plusieurs années, une dynamique concrète a engagé autour d'un enjeu humain et social majeur, la prise en charge effective des retraités de l'AMIBA. Et ceci marque un très grand pas dans le cadre de la relance de l'AMIBA. Grâce à l'appui du gouvernement, la première tranche de 8,9 millions de dollars sera versée dans la semaine qui vient pour couvrir la situation de 1047 retraités entre 2018 à 2024.
Les principaux bénéficiaires de ces processus, à savoir les retraités de l'AMIBA, ne cachent pas leur joie. Leur représentant, Donna Katumbi, a pris part à ces travaux de la commission mixte.
C'est une joie immense d'abord, puisque nous sommes restés dans l'impayement de 2017 jusqu'à ces jours.
Et pour sa part, le coordonnateur du ministère des Finances, Clavin Kabamba, s'est réjoui de voir cette commission mixte mise en place par le ministre des Finances, Doudou Fouamba, marquer les points avec des résultats concrets.
Actualité internationale.
Depuis lundi 28 juillet, de nombreux commerces de la capitale angolaise ont été pillés et vandalisés en marge d'un appel à une grève de 3 jours des chauffeurs de taxi pour protester contre la hausse des prix du carburant au début du mois de juillet. De heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants ont déjà fait au moins 5 morts, rapporte également la police.
L'invité.
Notre invité, c'est Maître Shadrach Moukad, coordonnateur provincial de la société civile du Lualaba. Il revient sur la problématique de l'encadrement de centaines de milliers de creuseurs artisanaux dans cette province. Selon lui, ces exploitants miniers artisanaux sont souvent négligés par les autorités. Maître Shadrach Moukad répond aux questions de Paulin Mounanga.
Maître Shadrach Moukad, bonjour.
Bonjour Monsieur Paulin.
La gestion des creuseurs artisanaux dans la province du Lualaba est un grand défi. Dites-nous tout d'abord, à combien peut-on évaluer le nombre de creuseurs artisanaux dans la province du Lualaba?
Le nombre de creuseurs dans la province du Lualaba, c'est un nombre qui n'est pas précis, mais selon les estimations et les statistiques que donne le gouvernement provincial à travers son service spécialisé qui est le SAEMAP, on estime à plus de 200 000 exploitants miniers artisanaux disséminés dans différents sites dans la province, et particulièrement à Kolwezi, Fungurume, et ce sont les deux endroits qui sont les bastions de l'exploitation minière artisanale dans notre province.
Et il y a actuellement combien de sites miniers artisanaux qui sont exploités par ces creuseurs?
Pour dire vrai, notre province connaît un grand défi dans le domaine d'avoir des sites officiels d'exploitation artisanale. Ces sites officiels que j'ai dit, ce sont les zones d'exploitation artisanale appelées ZEA. Et jusqu'aujourd'hui, l'État congolais a déterminé quelques collines qui sont appelées zones d'exploitation, mais qui ne sont pas viables ou accessibles. C'est pour cette raison que beaucoup de creuseurs aujourd'hui se trouvent sur des sites appartenant aux concessions minières privées et d'autres sites qu'on appelle les sites tampons. C'est-à-dire, site tampon, on appelle autrement zone tolérée. Ça veut dire, ça appartient à un concessionnaire, mais qui tolère, qui a une permissivité, mais ils n'y sont pas de manière légale, parce que c'est un bien privé, alors que les creuseurs artisanaux devaient être installés sur des sites que l'État leur a préparés et leur a accordés.
Dans quelles conditions travaillent ces creuseurs sur ces sites?
Les creuseurs qui sont encadrés, parce que la loi interdit le travail individuel ou en solo, les creuseurs devraient se retrouver au sein des coopératives, et il y en a plusieurs. Et nous saluons les coopératives qui existent au Lualaba. La plupart sont bien formalisées et travaillent en accompagnant les creuseurs, en leur dotant des outils de protection personnelle, des bottes, des tenues, des casques ainsi que de masques pour certains.
Qu'est-ce qu'ils exploitent principalement?
Les minéraux exploités, c'est du cuivre et cobalt.
Souvent, ces creuseurs sont soit délocalisés ou déguerpis des forces, ce qui provoque parfois des émeutes. Peut-on dire que le gouvernement néglige cette couche de la population au profit des exploitants industriels, donc des entreprises minières?
C'est ce que dénoncent nous qui sommes organisation de la société civile. L'État congolais devait comprendre que le secteur minier artisanal, c'est vraiment un secteur qui occupe des centaines de milliers de jeunes congolais. Aujourd'hui, l'État n'a pas réussi à donner de l'emploi à tous les Congolais, mais il y a un secteur qui essaye d'occuper ces jeunes. Lorsqu'ils ne sont pas occupés, nous vivons la hausse des criminalités dans nos villes et dans nos villages même. Ces creusets permettent aussi à renflouer ou à améliorer le panier de la ménagère. Et vous entendrez, ils vous disent, ils contribuent largement au social de leur famille. Donc l'État devait prendre conscience qu'il faille les aider. Malheureusement, c'est à partir de Kinshasa où tous les espaces miniers sont vendus aux industriels, sont vendus aux Chinois. Et plus grave, ce qui révolte plus les creuseurs, c'est le fait que parfois, par leur expérience, ils découvrent certaines collines. Ils commencent à exploiter avec des outils rudimentaires. Dès qu'on apprend que cette colline a titré, Kinshasa vend, sert ça à un Chinois, sert ça à un Libanais, et on vient déguerpir. Ce sont les militaires qui viennent pour chasser les Congolais. Ce sont là les émeutes, ce sont là les casques que nous avons toujours, ce sont des barricades de routes que nous avons toujours vécues dans notre province. Donc nous dénonçons ces comportements-là. Donc nous pensons qu'il est important que l'État congolais accorde des moyens et une attention particulière à l'exploitation minière artisanale dans le sens de comprendre que c'est un secteur qui lui permet d'occuper la jeunesse congolaise et qui permet aussi à la vie économique de notre pays, parce que il faudrait pas qu'on se trompe. On a des statistiques qui font état de 20 à 30% de la production générale du pays vient de l'exploitation minière artisanale.
Maître Shadrach Moukad, je vous remercie.
C'est moi qui dis merci à la radio Okapi.
Notre invité, Maître Shadrach Moukad, s'entretenait avec Paulet Munanga, et c'est par ici que nous mettons un point final à notre grande édition du journal Vespéral, coordonnée et supervisée par Alain Irong Moshing et mise en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kengonswalu. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.